Séminaire du 31 janvier 1985 sur Malebranche à Saint-Joseph.
On a fait un séminaire très particulier aujourd'hui, parce que je fais le séminaire avec le frère Benoît. Le frère Benoît viendra là, en même temps. On prend des vieilles troupes. Alors, c'est pour... Je n'ai pas préparé quelque chose de nouveau, mais j'ai pris ce que j'avais préparé anciennement. Hein, ça prouve sa signe de vieux professeur. Ça, alors, il était obligé de reprendre ce qu'il a travaillé. Et comme vous ne l'avez pas eu dans vos, sous les yeux, ça va. Grâce à l'éditeur qui ne veut pas éditer ça, ça demeure. Hein. Alors, Malebranche, 1638-1715. Malebranche est réputé symboliquement pour être le premier ontologiste. Avant, on dit pré-ontologiste. On ne dit pas Descartes absolument ontologiste. Mais on va voir. C'est l'ontologisme, Malebranche. C'est l'ontologisme dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans toute sa... Vous verrez. Il était curé. Dans La recherche de la vérité, qui est sa première grande œuvre, commencée en 1668, elle fut publiée en 1674. Malebranche reproche aux preuves ordinaires de l'existence de Dieu et des perfections de Dieu, tirées de l'existence et des perfections de ses créatures, de ne pas convaincre l'esprit par simple vue. Tout est là. Bon, il a la nostalgie de l'intuition. Il ne faut pas de démonstration, il faut l'évidence. Et déjà, un tout petit peu, vous avez ça chez Descartes, puisque le modo geometrico, c'est d'arriver par une espèce d'évidence mathématique à trouver l'existence de Dieu. Alors, par simple vue, c'est ça qu'il veut découvrir. Toutes ces preuves, reconnaît-il, toutes ces preuves passées, sont des raisonnements qui sont convaincants en eux-mêmes. Mais étant des raisonnements, ils ne sont point convaincants dans la supposition d'un mauvais génie qui nous trompe. Le mauvais génie, ça s'ajoute très fort. Il y aurait toute une histoire très intéressante avec du psychanalytique. C'est extrêmement intéressant de voir que le mauvais génie, déjà chez Descartes, hein, puisse avoir joué après constamment. C'était déjà avant, au XIVe siècle. Hein. C'était le protervus, le mauvais génie. Au fond, c'est l'état de tentation dans lequel on est. On est tous dans un état de tentation. On a tous de la mauvaise humeur, au point de vue intellectuel. Alors, plutôt que de dire « je suis en état de tentation », c'est le mauvais génie. Donc, on met la faute sur le démon. Oui. C'est le mauvais génie, plutôt que de considérer. Et c'est très curieux. Alors on lui donne une espèce de rôle particulier. Donc, je cite, hein, c'est de lui. Ils ne sont point convaincants dans la supposition d'un mauvais génie qui nous trompe. Ils convainquent suffisamment qu'il y a une puissance supérieure à nous, car même cette supposition extravagante du mauvais génie l'établit. Mais ils ne convainquent pas pleinement qu'il y a un Dieu ou un être infiniment parfait. Vous voyez, l'infiniment parfait. Que sera donc pour Malebranche cette preuve de simple vue qui n'aura pas l'imperfection des raisonnements ordinaires? Ce sera une preuve tirée de l'idée que nous avons de l'infini, preuve qui peut se résumer ainsi. Alors, je vous donne le texte, c'est de lui. On voit qu'il y a un Dieu. Dès que l'on voit l'infini, voyez l'infini, vous voyez Dieu au terme de la lunette. L'infini, Dieu est là, présent. On voit qu'il y a un Dieu dès que l'on voit l'infini, parce que l'existence nécessaire est renfermée dans l'idée de l'infini. Ou, pour parler plus clairement, parce qu'on ne peut voir l'infini qu'en lui-même. C'est évident, si on est en dehors de l'infini, l'infini, peut pas être en dehors de l'infini. Donc on ne peut voir l'infini, ça c'est très très important. Je ne peux découvrir Dieu que si Dieu lui-même se dévoile. Et ça, ça va jusqu'à Heidegger. Heidegger dit exactement la même chose. Donc, depuis Malebranche à Heidegger, rien ne change. Là-dessus. Ça, c'est pour ça que l'ontologisme, c'est, je crois, le courant le plus fort, l'ontologisme ou l'athéisme. C'est l'immanentisme le plus absolu. Donc, car, oui, ou pour parler plus clairement, parce qu'on ne peut rien voir, on ne peut voir l'infini qu'en lui-même. Car le premier principe de nos connaissances est que le néant n'est pas visible. Le premier principe de nos connaissances, c'est que le néant n'est pas visible. D'où il suit que si l'on pense à l'infini, il faut qu'il soit. Le raisonnement est très très curieux. On voit aussi que Dieu n'est point trompeur. Parce que sachant qu'il est infiniment parfait et que l'infini ne peut manquer d'aucune perfection, on voit clairement qu'il ne veut pas nous séduire, et même s'il ne le peut pas. Comprenez que l'infini est le seul métaxu par rapport à Dieu. Mais ce n'est pas un métaxu, ce n'est pas un raisonnement, c'est lui qui nous révèle Dieu. L'infini nous révèle Dieu. À travers l'infini, je vois Dieu. Cette preuve par l'idée d'infini est pour Malebranche la preuve de l'existence de Dieu la plus belle, la plus relevée, la plus solide, la première ou celle qui suppose le moins de choses. Car, cité, il est constant que l'esprit aperçoit l'infini, quoiqu'il ne le comprenne pas, et qu'il y a une idée très distincte de Dieu qu'il ne peut avoir que par l'union qu'il a avec lui. Puisqu'on ne peut pas concevoir que l'idée d'un être infiniment parfait, qui est celle que nous avons de Dieu, soit quelque chose de créé. Vous voyez, ça tourne autour de cette question de l'infini. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous y reviendrez. Cette preuve par l'idée d'infini, vous voyez, c'est très proche de Descartes, hein, c'est sûr. Cette preuve par l'idée d'infini, qui n'est ici qu'annoncée, mais dont on voit déjà combien elle se sépare de celle de Descartes, elle est très proche, elle se sépare. Parce que pour Descartes, il y a un métaxu, il y a une démonstration. Pour Malebranche, pas de démonstration. Pour Malebranche, vous comprenez, s'il y a une démonstration, il faut le principe de causalité. Le principe de causalité, c'est toujours là où on achoppe. C'est toujours là qui nous empêche de pouvoir passer vers quelque chose d'autre. Donc, supprimons le principe de causalité. Et au fond, je crois que c'est ça qu'il y a dans le désir constant de l'ontologisme. Alors, cette preuve de l'idée de l'infini est exposée au livre suivant. Ça, c'est au livre premier. C'est au livre... Au livre suivant, se référant aux méditations de Descartes, Malebranche commence par poser en principe qu'on doit attribuer à une chose ce que l'on conçoit clairement être enfermé dans l'idée qui la représente. Recherche de la vérité, donc 4, chapitre 11, livre 4, chapitre 11. Et dans les œuvres complètes, 2, page 93. Ce principe cartésien, précisera plus loin Malebranche, dépend du premier principe de toutes nos connaissances, selon lequel le néant n'est pas visible. Il y a toujours cette question, le néant n'est pas visible. Et il n'est vrai qu'en supposant que les idées sont immuables, nécessaires et divines. Or, donc, premier principe, n'est-ce pas ? On doit attribuer à une chose ce que l'on conçoit clairement être renfermé dans l'idée qui la représente. Or, on conçoit clairement que l'existence nécessaire est contenue dans l'idée qu'on a de Dieu, c'est-à-dire de l'être infiniment parfait. Donc, Dieu ou l'être infiniment parfait existe nécessairement. il y a un raisonnement. Vous voyez bien. C'est très proche de Descartes comme raisonnement, ça. Cela aussi est évident pour l'esprit que de reconnaître que le tout est plus grand. Donc, cela est aussi évident pour l'esprit que de reconnaître que le tout est plus grand que la partie. Parce qu'on conçoit clairement qu'il y a plus de grandeur dans l'idée qu'on a du tout que dans celle que l'on a de la partie. Ou qu'une montagne sans vallée ne peut exister. Vous retrouvez, n'est-ce pas ? J'allais faire mémoire. Et c'est de lui, c'est Malebranche qui fait mémoire. Parce que l'existence impossible est contenue dans l'idée d'une montagne sans vallée. Ça, on n'y avait pas pensé. Voilà la preuve de Descartes. Cependant, Malebranche a conscience des difficultés qu'elle représente. Aussi estime-t-il nécessaire de lui ajouter un éclaircissement qui lui donnera toute sa force, expression pleine de respect, qui en réalité cache un changement radical de perspective. On va lui ajouter quelque chose simplement, on va changer complètement la preuve de Descartes. Voici. Alors, il faut se souvenir que lorsqu'on voit une créature, on ne la voit point en elle-même, ni par elle-même, car on ne la voit que par la vue de certaines perfections qui sont en Dieu. Ça, c'est pas si bête. Vous pouvez parler d'une créature que si vous voyez Dieu. C'est bien évident. Autrement, je ne peux pas dire créature. Quelle belle créature. Quand vous dites ça, c'est parce que vous regardez certaines perfections qui sont en Dieu. Lesquelles la représentent. Ainsi, on peut voir l'essence de cette créature sans en voir l'existence. Son idée sans elle. On peut voir en Dieu ce qui la représente sans qu'elle existe. C'est uniquement à cause de cela que l'existence nécessaire n'est point renfermée dans l'idée qui la représente, n'étant point nécessaire qu'elle soit actuellement, afin que la voix, si ce n'est qu'on prétende que les choses créées soient visibles immédiatement, intelligibles par elles-mêmes, capables d'éclairer, d'affecter, de modifier des intelligences. Mais il n'en est pas de même de l'idée infiniment parfaite. On ne peut le voir que dans lui-même, car il n'y a rien de fini qui puisse représenter l'infini. Je crois que c'est ça, le nerf. Car il n'y a rien de fini qui puisse représenter l'infini. Et vous retrouvez exactement la même chose chez Kant. Le contingent ne peut jamais vous permettre d'affirmer le nécessaire. Car il n'y a rien de fini qui puisse représenter l'infini. L'on ne peut donc voir Dieu qu'il existe. Car on ne peut voir l'essence d'un être infiniment parfait sans en voir l'existence. On ne peut le voir simplement comme un être possible. Rien ne le comprend. Rien ne le peut représenter. Si donc on y pense, il faut qu'il soit. Si vous pensez l'infini, il faut qu'il existe. Vous voyez pourquoi, hein ? Il ne peut rien y avoir en dehors de l'infini. Si vous mettez l'existence en dehors de l'infini, l'infini n'est plus l'infini. L'infini, il existe. Dès que vous le pensez. Ainsi, Malebranche, après avoir exposé la preuve de Descartes, en rendant hommage à son auteur, la transpose dans sa propre perspective qui exclut purement et simplement toute idée de Dieu à la manière dont l'entend Descartes et qui lui substitue une vision intuitive de l'existence de Dieu. Certes, Descartes avait reconnu que c'était presque la même chose de concevoir Dieu et de concevoir qu'il existe. Mais maintenait une distinction entre l'idée que nous avons de Dieu et la proposition « Dieu existe », la première servant de moyen ou d'antécédent pour prouver la seconde. Chez Malebranche, le moyen ou l'antécédent disparaît et avec lui le raisonnement, Si donc on y pense, il faut qu'il soit. Ça, c'est de lui. Hein. Si donc on y pense, il faut qu'il soit. Oui, raisonnement de nécessité. Dieu existe puisqu'on y pense. Il suffit de penser à Dieu pour savoir qu'il existe, qu'il est. Parce qu'en pensant à Dieu, vous pensez à l'infini. Si vous pensez à l'infini, il existe nécessairement. Je crois que c'est très clair. Hein. C'est tout à fait clarté suffisante. Pour la clarté qui tombe. Hein. Vous êtes infini. Ainsi, cette preuve par simple intelligence, comme son nom l'indique, n'est pas au sens propre une démonstration. Car pour Malebranche, il y a là une évidence. Cependant, cette évidence n'est pas aussi simple pour tout le monde. Et c'est pourquoi Malebranche doit s'efforcer d'éclaircir encore cette manière et de forcer tout esprit attentif à se rendre à cette proposition qui lui avait paru claire par elle-même, que rien de fini ne peut représenter l'infini et qu'ainsi Dieu existe puisqu'on y pense. Ça, c'est de lui, hein. C'est très raisonné, mais c'est ça l'essentiel. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Que rien de fini ne peut représenter l'infini. Donc, si rien de fini ne peut représenter l'infini, ou vous êtes complètement dans l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu, parce que vous ne touchez des êtres finis, mais vous avez l'idée d'infini. Et qu'ainsi Dieu existe, puisqu'on y pense. Pour prouver cela, Malebranche, dans le livre 4e de la recherche de la vérité, fait principalement appel à ce qu'il considère comme le premier principe de toutes nos connaissances, à savoir que le néant n'est pas visible et qu'il n'est pas intelligible. On ne peut donc pas voir l'infini dans on ne peut donc pas voir l'infini dans l'âme, ni dans ses modalités, car on verrait alors un infini qui ne serait pas. Alors je vous cite ce texte de Malebranche. Il est donc clair que l'âme, que ses modalités, que rien de fini ne peut représenter l'infini, qu'on ne peut voir l'infini qu'en lui-même, et que par l'efficace de sa substance, que l'infini n'a point et ne peut avoir d'archétype ou d'idée distinguée de lui qui le représente, et qu'ainsi, si l'on pense à l'infini, il faut qu'il soit. Mais certainement, on y pense. C'est toujours à l'infini. Donc l'infini existe, donc Dieu existe. Hein ? Faut pas dire autre chose que Malebranche. Hein ? Même si vous n'avez pas l'intuition, vous n'avez pas l'intelligence de Malebranche, mais pour lui, c'est évident. Penser l'infini, c'est nécessairement affirmer que l'infini existe. Un autre texte, je peux vous donner les références, je sais pas si ça vous intéresse, hein. N'allez pas regarder ça. Il est donc aussi évident qu'il y a un Dieu, qu'il est à moi que je suis. Aussi évident l'existence de Dieu que de dire que j'existe. Je conclus que je suis parce que je me sens et que le néant ne peut être senti. Hein ? Sentez, donc j'existe parce que le néant peut être senti. Je conclus de même que Dieu est, que l'être infiniment parfait existe parce que je l'aperçois. Et que le néant ne peut être aperçu, ni par conséquent l'infini l'infini. Vous voyez ? Tout ça, c'est évidemment d'une clarté nébuleuse. Il n'y a rien à penser, hein, c'est ça qui est merveilleux. Il n'y a rien à penser parce que vous devez penser l'infini. Moi, je n'arrive pas à penser l'infini. Je ne sais pas si vous le pensez, moi je ne pense pas. Si vous pensiez l'infini, vous verrez qu'il existe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ne pensez pas l'infini. La question c'est ça. Or, pour lui, penser l'infini, ça va de soi. Vous voyez donc là, le rôle de l'infini, c'est ça qui m'intéresse. C'est écrit philosophiquement, c'est ça qui m'intéresse. Dans les entretiens sur la métaphysique et sur la religion, Malebranche, donc c'est un autre livre, hein, il y a la recherche de la vérité, et qu'on peut rechercher la vérité diversement, n'est-ce pas ? Il y a la recherche de la vérité, et puis il y a les entretiens sur la métaphysique et sur la religion. Philosophie première, éthique, religieuse. Hein, bien, entretien sur la métaphysique et sur la religion. Malebranche invoque, pour prouver que nous n'avons pas en nous d'idée, de représentation de l'infini, le fait qu'il n'est pas faisable. Car il n'y a pas d'archétype sur le modèle duquel il serait fait. Or, seul ce qui peut être fait peut être connu avant même d'être fait par une idée qu'il représente. C'est encore autre chose, comme vision. Je vous lis ce texte. Dieu ou l'infini ? Dieu égale l'infini, l'infini parfait. Dieu ou l'infini n'est pas visible par une idée qui le représente. L'infini est à lui-même son idée. Il n'y a point d'archétype. Il peut être connu, mais il ne peut être fait. Il n'y a que les créatures, que tel ou tel être qui soit faisable, qui soit visible, par les idées qu'il représente, avant même qu'elles soient faites. On peut voir un cercle, une maison, un soleil, sans qu'il y en ait. Car tout ce qui est fini se peut voir dans l'infini qui en renferme les idées intelligibles. Mais l'infini ne se peut voir qu'en lui-même, car rien de fini ne peut représenter l'infini. Si on pense à Dieu, il faut qu'il soit. On ne peut voir l'essence de l'infini sans son existence. L'idée de l'être sans l'être. On peut voir l'idée de l'être sans l'être. Mais l'être n'a point d'idée qui le représente. Il n'y a point d'archétype qui contienne toute sa réalité intelligible. Il est à lui-même son archétype. C'est textuel, hein, c'est pas moi qui résume. Hein, c'est comme ça. Hein, quand les curés commencent à penser. Extraordinaire. Pour Malebranche, donc, l'infini ou Dieu ne peut être connu que par l'infini, par Dieu. C'est ça le point de vue principal. C'est, je crois que c'est... Heidegger dit ça aussi. Mais Dieu relance. Dieu ne peut être connu que par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est infini. Ça ne peut pas être connu par l'infini. C'est impossible. L'infini ne peut pas nous conduire à l'infini. Il vous dit, Kant dira la même chose. Hein. C'est très curieux, parce que ça, c'est très intéressant de voir, parce qu'à première vue, ça paraît une évidence. Hein. Si on pense à Dieu, il faut qu'il soit, puisqu'on ne peut penser à Dieu que par Dieu lui-même. Il ne peut y avoir d'idée qui le représente. On comprend alors que la proposition il y a un Dieu, soit par elle-même la plus claire de toutes les propositions qui affirme l'existence de quelque chose. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Hein, oui. Enfin, Dieu existe, mais il y a un Dieu. Et de plus, dans cette simple vue, on voit ce que c'est que Dieu, puisque Dieu et l'être ou l'infini ne sont qu'une même chose. Certes, on le voit d'une manière imparfaite, on ne le voit pas tel qu'il est, comme un être saint. Cependant, Malebranche maintient que c'est En un sens, la substance même de Dieu que nous voyons. Mais nous ne la voyons en cette vie que d'une manière si confuse et si éloignée que nous voyons plutôt qu'elle est, que ce qu'elle est, que nous voyons plutôt qu'elle est la source et l'exemplaire de tous les êtres, que sa propre nature ou ses perfections en elles-mêmes. L'exister d'une part, et puis on la voit comme archétype, comme exemplaire. Cependant, Malebranche reconnaît que les preuves métaphysiques par lesquelles, selon sa propre expression, il tâche de forcer tout esprit attentif à se rendre à cette proposition, qui lui a paru claire par elle-même, à savoir que rien de fini ne peut représenter l'infini, et qu'ainsi Dieu existe, puisqu'on y pense, sont des démonstrations personnelles qui ne peuvent convaincre le commun des hommes, ni même les plus savants, car ceux-ci, la plupart du temps, les méprisent, prenant pour des illusions les vérités que leurs sens ne peuvent toucher, d'où la nécessité de recourir à des vérités palpables, à des preuves sensibles. Très intéressant. C'est toujours à peu près le même Dieu. Si et certes, de telles preuves ne manquent pas, car il n'y a aucune vérité qui ait plus de preuves que celle de l'existence de Dieu. C'est cette vidéo du sermon, oui, elle est très très bien. C'est la rhétorique. L'existence de Dieu se peut prouver en mille manières, car il n'y a aucune chose qui ne puisse servir à la démontrer, aucune créature qui ne puisse servir à faire connaître le Créateur. Le Créateur a mille visages, puisque toute créature est un reflet de lui. Oui, en sermon, ça va très bien. Vous commencez à comprendre Malebranche si vous prenez le style sermon. Regardez, c'est le visage de Dieu. Alors, vous n'avez qu'à regarder. Et toutes les créatures vous conduisent vers Dieu. Donc, il y a mille façons de remonter jusqu'à Dieu. Mille façons. Toutes les créatures sont porteuses de quelque chose qui nous conduit vers Dieu. Et par là, nous découvrons Dieu. Malebranche semble donc admettre la possibilité de prouver l'existence de Dieu a posteriori, et même la nécessité d'avoir recours à des preuves sensibles pour ceux qui ne peuvent être convaincus par les preuves les plus simples et les plus naturelles. Et les preuves les plus simples et naturelles, c'est l'infini. On partira donc de cette lumière qui nous environne, de ce feu qui nous échauffe, afin de montrer que c'est Dieu qui, agissant sans cesse, dans tous ses ouvrages, et par tous ses ouvrages, nous éclaire par cette lumière, et nous réjouit par ce feu. Mais remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici de la lumière du feu, pris en tant que réalité existante. Ce dont part la preuve de Malebranche, c'est l'effet que produit le feu, ou plus exactement, l'effet qu'il semble produire en nous, et qui en réalité est produit par une idée. Ça, c'est toute la question de la causalité chez Malebranche. Hein. L'occasionnalisme, il n'y a pas de causalité. Mais remarquons bien qu'il n'y a qu'une seule causalité, la causalité du Créateur, oui, et toutes les autres, non, il n'y a pas de causalité seconde. Mais remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici de la lumière ou du feu pris en tant que réalité existante. Ce dont part la preuve de Malebranche, c'est l'effet que produit le feu, ou plus exactement l'effet qu'il semble produire en nous, et qui en réalité est produit par une idée. Car nos sensations ne sont que des modifications subjectives de notre âme, qui ne font rien connaître. Tout est là. Une fois qu'on a compris cet aspect-là, car nos sensations ne sont que des modifications subjectives de notre âme, qui ne nous font rien connaître. Pour Malebranche, en effet, l'âme ne peut connaître les corps que par leurs idées, qui sont en Dieu, et qui sont l'essence même de Dieu, en tant qu'il est participable ou imparfaitement imitable. Ainsi, c'est à travers la participation de l'essence de Dieu que nous voyons toutes les réalités qui nous entourent. Dans ces conditions, on voit le caractère tout à fait particulier que peuvent avoir les preuves a posteriori. Le principe de causalité efficiente que Descartes appliquait aux idées est ici remplacé par la participation. Les idées sont l'essence même de Dieu en tant qu'elle est participable. Le recours à des preuves sensibles, à des vérités grossières, palpables, est une concession qui porte sur le principe de départ, le mouvement initial de la preuve. La preuve proprement dite se ramène à la participation des idées et en définitive à la vision en Dieu. On voit donc en quel sens très relatif on peut parler de preuve a posteriori chez Malebranche, puisque pour lui, lorsqu'on voit une créature, on ne la voit pas en elle-même, ni par elle-même, on ne la voit que par la vue de certaines perfections qui sont en Dieu, lesquelles la représentent. Vous voyez toutes choses en Dieu. C'est en Dieu que vous les voyez. Alors à ce moment-là, vous voyez, les sensations n'existent plus. Tout le monde des sensations, c'est tout à fait secondaire, c'est métaphorique. Les sensations ne vous disent rien. Mais vous voyez toutes choses en Dieu. Vous voyez, c'est tellement lumineux que ça, on ne voit plus rien. Parce que regarder toutes choses en Dieu, c'est pas commode. Hein. On peut donc dire que tout se ramène, en définitive, à la preuve par simple vue, qui en elle-même n'est pas une démonstration, mais une intuition. Cependant, il y a aussi chez Malebranche une preuve par les idées. Si nos idées sont éternelles, immuables, nécessaires, elles ne peuvent se trouver que dans une nature immuable, ou, de manière plus précise, par l'idée d'étendue, autrement dit, l'étendue que j'aperçois et dont je reconnais qu'elle n'est point une modification de mon esprit, qu'elle subsiste sans moi, l'étendue intelligible infinie n'est point une modification de mon esprit. Elle est immuable, éternelle, nécessaire. Je ne puis douter de la réalité de son immensité. Or, tout ce qui est immuable, éternel, nécessaire et surtout infini n'est point une créature et ne peut appartenir à la créature. Donc, elle appartient au Créateur et ne peut se trouver qu'en Dieu. Donc, il y a un Dieu et une raison. Un Dieu sans lequel je trouve un Dieu dans lequel je trouve l'archétype que je contemple du monde créé où j'habite. Un Dieu dans lequel je trouve la raison qui m'éclaire par les idées purement intelligibles qu'elle fournit abondamment à mon esprit et à celui de tous les hommes. C'est de lui, ça. Extrêmement significatif. Je vous le relis parce que c'est peut-être ce qui est le plus net de tout ce qui a été dit jusque maintenant. C'est dans les Entretiens sur la métaphysique, livre 2, paragraphe 1er. Et puis alors, on a un autre passage aussi intéressant. Je relis. L'étendue intelligible infinie n'est point une modification de mon esprit. Elle est immuable, éternelle, nécessaire. Je ne puis douter de la réalité de son immensité. Or, tout ce qui est immuable, éternel, nécessaire et surtout infini, n'est point de créature et ne peut appartenir à la créature. Donc, elle appartient au Créateur. Et ne peut se trouver qu'en Dieu. Donc, il y a un Dieu et une raison. Un Dieu dans lequel se trouve l'archétype que je contemple du monde créé où j'habite. Un Dieu sans lequel je trouve la raison qui n'éclaire pas. Un Dieu dans lequel je trouve la raison qui m'éclaire par les idées purement intelligibles qu'elle fournit abondamment à mon esprit et à celui de tous les hommes. Il y a Dieu et la raison. Il y a Dieu et les idées en Dieu. C'est ça qui est sous-jacent. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est la position théologique qui est sous-jacente de cela. Mais remarquons bien que cette preuve, élaborée par le disciple Aristin, avec qui Malebranche dialogue, reste imparfaite. Certes, Aristin a suivi la raison. Et celle-ci la conduit à celui qui l'engendre de sa propre substance et qui le possède éternellement. Mais elle ne lui a pas découvert la nature de l'être suprême auquel elle l'a conduit. Seule la vision de l'infini en lui-même, de l'être infiniment parfait, constitue la preuve parfaite. Pour autant qu'on puisse parler de preuve, puisque Dieu est l'objet immédiat et direct de nos connaissances claires et évidentes, et que nous le voyons donc d'une vue immédiate et directe, qui n'est possible que par l'union de notre esprit à lui-même, et que ce qui seul rend possible notre connaissance des autres réalités. Si donc on a pu distinguer chez Malebranche trois preuves de l'existence de Dieu, par le sensible, par les idées, par simple vue, il y a bien les trois. On fait, en fait, toutes se ramènent à cette dernière, et c'est bien elle qui constitue l'originalité de Malebranche. Toute la difficulté consiste à préciser la valeur de cette intuition de l'infini. Cette sorte de lecture directe de toute idée intelligible comme participation immédiate de l'essence de Dieu. Vous voyez cette chose très particulière, très spéciale, cette simple vue. Alors, comprenez, hein, avant de discuter, comprenez bien le fond théologique. Il a fait ses études de théologie. Ayant fait ses études de théologie, il essaie de laïciser ses études de théologie et de les appliquer. Bon, nous avons le grand problème bien connu de la science de Dieu. La science de sainte intelligence, comme ça qu'on la nomme, qui fait que Dieu, en se voyant, Dieu, en se connaissant, connaît tous les possibles. Toutes les possibilités de participation. Dieu, en se voyant, voit toutes les choses qui peuvent provenir de lui, toutes les participations possibles. Donc, tout est possible. Dieu, en se voyant, voit tous les possibles. La science de sainte intelligence, c'est la science de ces possibles. Ceci est dit dans une perspective théologique. C'est-à-dire le croyant qui réfléchit sur ce qu'est Dieu. Et le croyant qui réfléchit sur ce qu'est Dieu voit nécessairement qu'en Dieu, que la lumière, il y a cette science de sainte intelligence où Dieu saisit tous les possibles. À partir de là, parce que ceci c'est la réalité, à partir de là, Malebranche va dire, mon intelligence, qui est une intelligence, c'est ma raison, si vous voulez, parce que c'est la raison. Ma raison va voir toute chose dans les possibles de Dieu. Et il y a cette cette simple intelligence, ce regard direct sur les possibles divins, sur les participations possibles. Et c'est dans ce sens-là que je saisis l'infini dans ces possibles. Saisissant cet infini, je saisis tous les possibles, et saisissant ces possibles, je dis que Dieu existe. Vous voyez, le métaxu, il est en Dieu, il n'est pas dans mon esprit. Ce n'est pas la créature qui me permet de montrer Dieu, c'est Dieu lui-même qui se manifeste à moi, et qui se manifeste à moi par ses possibles, et par l'idée infinie. Par l'idée infinie de lui. Donc c'est Dieu lui-même qui se révèle à moi. Vous voyez, il s'agit donc d'une révélation qui n'est plus surnaturelle. L'illuminisme de Saint-Augustin. Mon intelligence est faite pour voir Dieu. Ici sur terre, elle ne voit pas Dieu en lui-même, elle voit Dieu dans les possibles, dans ses possibles, et à travers ses possibles. Et c'est... Ce n'est pas les sensations, elles peuvent me tromper, c'est tout à fait secondaire, elles existent, c'est pour ça qu'il maintient la preuve par les sensibles. Donc le grand sermon, Dieu, toute créature, mon Dieu, Dieu, ce n'est pas ça qui l'intéresse, ça n'a pas aucun intérêt. Ce qui l'intéresse, c'est de voir qu'il y a une illumination intérieure, Saint-Augustin, une illumination intérieure par laquelle je découvre les possibles, l'infini. Et par là, je dis Dieu existe. Alors, ce n'est pas une vision de Dieu en lui-même. Celle-là ne peut se faire que par la vision béatifique. Il le sait. Mais c'est une vision des possibles qui sont en Dieu. Et ces possibles sont infinis. Du côté de Dieu, c'est les possibles. De mon côté, c'est l'infini des possibles. Et je vois Dieu. C'est que Dieu est source de ses possibles. Et ses possibles sont Dieu. Sont les sens de Dieu. Ce n'est pas autre chose que les sens de Dieu. Mais je ne saisis pas l'essence de Dieu en elle-même. Je saisis les possibles provenant de cette essence. Qui sont dans cette essence et qui ne font pas avec cette essence. Et je dis immédiatement les possibles.
Est-ce que c'est possible, c'est sans mixité ?
Non. Ben, ce n'est pas mes idées.
Ce sont des créatures.
C'est les idées, si vous voulez, oui. Les idées correspondent à ces possibles. Ça, c'est juste. On peut dire que les idées, par exemple, c'est possible. Oui. Il y a une correspondance entre ces idées, c'est possible. Les idées, oui.
C'est plus que la connaissance en Dieu.
Ah oui, c'est encore plus, oui, c'est mieux. Du curé par rapport aux anges. C'est mieux que les angéliques, parce que la connaissance angélique, autant qu'on peut la savoir, telle que nous donne saint Thomas, c'est l'ange, en se connaissant, pose l'existence de Dieu. Donc il y a une quasi-démonstration. En Dieu, il n'y a pas de démonstration, il y a une vision intuitive, vous voyez, de l'idée d'infini. Et toute la question est de savoir, prenez au fond toute la question. Parce que c'est vrai, si vous posez par exemple une idée d'infini, vous avez l'idée d'infini. L'idée d'infini rejoint nécessairement tous les possibles. C'est l'horizon des possibles de Dieu, on dirait aujourd'hui. Or, vous saisissez cet infini, vous saisissez cet horizon, et donc vous saisissez nécessairement que Dieu existe. À l'intérieur de l'infini, vous saisissez que Dieu existe. Laïcisation de la vision de Dieu.
Vous avez tout à l'heure un texte qui dit qu'on voit donc Dieu par cette vision directe, mais on ne voit pas vraiment ce qu'il est.
On ne voit pas ce qu'il est, et il sait très bien, en tant que théologien, il ne peut pas dire ça, mais qu'il existe. En tant que théologien, il sait très bien que tous les pères de l'Église, et que saint Thomas, a dit qu'on ne pouvait pas avoir, connaître ce qu'est Dieu. Mais on connaît l'existé de Dieu. Et on connaît l'existé de Dieu, non plus par le point de vue de la démonstration, mais par une vision directe. Alors, inutile de vous dire que ça n'existe pas. C'est une espèce de mythe, mais très très curieux de voir qu'on peut affirmer ça avec autant de barbeur, autant de force, autant de. C'est une hallucination. C'est extraordinaire d'arriver à ça, cette grande vision de l'infini que je possède en moi, et cet infini me fait toucher Dieu.
Est-ce que son idée d'infini, c'est pas imaginatif?
Mais pour lui, c'est pas imaginatif du tout. C'est cet amour réel.
Quand il dit ça, il doit penser à quelque chose.
Ah, il pense à l'infini. Il pense à l'infini. Il pense à Dieu. C'est très très bon. Il se le représente, il dit tout le temps. Vous arrêtez quoi de dialoguer avec Malebranche dans le ciel comme ça, vous voyez. Une matière aussi de raisonner. Mais...
Est-ce que ce n'est pas seulement une satisfaction que c'est exhaustif?
Oui, c'est sûr, c'est exhaustif. C'est pour ça que je dis une toile de fond. Oui. Moi, je crois qu'il y a cette idée-là profonde. Vous voyez, dans l'ontologisme, Dieu est présent à toute chose. Dieu est plus présent à toute chose que les réalités ne sont présentes à elles-mêmes. Donc, à mon intelligence, il y a une présence plus que mes idées, c'est l'infini de Dieu. L'infini de Dieu est plus présent à mon intelligence que mes propres idées. Donc, petit à petit, quand je me dis ça, mes idées, mais ça colle avec l'infini de Dieu. C'est l'infini de Dieu. Et c'est l'infini que je connais, que j'affirme, oui, nécessairement, il ne faut pas être autrement.